Aujourd'hui, la masterclass d'Elisabeth de Fontenay avec Géraldine Mosna-Savoie.
Bienvenue donc dans cette belle Bibliothèque nationale de France pour cette cinquième édition 2020 de la Nuit des idées. Nous allons, dans l'heure qui vient, Elisabeth de Fontenay, durant cette masterclass qui vous est consacrée, revenir sur la manière dont vous avez construit et dont vous construisez votre œuvre, comment vous viennent les idées, de quel art vous vous nourrissez ou encore quelle place vous faites à la critique. Mais avant d'en venir à la fabrication de votre œuvre, je dois vous présenter. Elisabeth de Fontenay, vous êtes philosophe, mais vous préférez être présentée, si je ne me trompe pas, comme professeure de philosophie. Vous avez fait vos premiers pas aux côtés de Vladimir Jankélévitch. Vos premiers travaux ont porté sur la question juive et sur Marx. C'était dans les années 70 aux côtés de Louis Althusser. Puis vous avez prolongé vos recherches sur le matérialisme en vous penchant sur Diderot. Mais c'est avec votre travail sur les animaux et votre grand livre, Le silence des bêtes, paru en 1998, que vous avez marqué l'histoire des idées. Et le tableau n'est pourtant pas complet, si je ne cite pas vos textes plus littéraires, en tout cas plus intimes. Je pense en particulier à Gaspard de la Nuit, publié en 2018, lauréat du prix Femina, dans lequel vous faites une autobiographie de votre frère cadet et handicapé. Être vivant est le thème de cette cinquième édition de la Nuit des idées. Vous teniez à parler de ce thème. Est-ce le thème, selon vous, qui guide votre œuvre ?
Oui. En un sens, oui. J'aime beaucoup le titre de cette soirée, Être vivant. Il permet de dépasser l'opposition que beaucoup font entre vivre et exister. Être vivant, ça vaut à la fois pour les animaux et pour les êtres humains. Et ça me plaît. Ça me plaît bien. Même si il ne sera pas beaucoup question, sauf peut-être aujourd'hui ici, des animaux, mais beaucoup de procréation médicalement assistée, de GPA, etc. Toutes les questions de mort, de gens qu'on entretient en vie alors qu'ils ne le souhaitent pas. Il sera beaucoup plus question de ça, je pense, dans ces rencontres, que des animaux. Mais il est essentiel que la thématique être vivant comprenne à la fois les animaux et les êtres humains. Pas au même titre. Je peux m'expliquer sur ce point si vous voulez, mais également.
Alors qu'est-ce que ça veut dire pas au même titre ?
Je veux dire que toutes les accusations de spécisme me semblent difficiles à maintenir. Le spécisme, c'est-à-dire un racisme envers les autres espèces que l'espèce humaine. Je suis très hostile à cette manière de voir les choses. Je ne pense pas qu'il faut que la défense des animaux aille jusque-là. Le spécisme n'est pas un racisme. Le spécisme, c'est une notion qui est problématique. Et je pense que l'être humain n'est pas un animal. Je n'aime pas du tout qu'on parle de l'animal humain, du tout. Je pense que ça vexe les gens qui seraient des gens de bonne volonté. Et ça les engage à ne pas porter secours aux animaux, à ne pas ressentir leur responsabilité d'humain envers les animaux, si on leur dit qu'ils sont des animaux eux-mêmes.
Comment vous est venue l'idée de travailler sur les animaux ?
Ah, c'est difficile à dire. J'ai réfléchi, mais je pense que vous avez cité le livre sur mon frère. Je pense que tout vient de là. Mais pas tout de suite, dans ma carrière philosophique, pas tout de suite, mais assez vite. Réflexion sur une existence ou une vie sans idées claires et distinctes. Et d'autre part, j'ai toujours été très, très attirée par les animaux, de la ferme. Parce que je suis très vieille, et de 40 à 44, j'ai passé mes vacances dans une ferme en Normandie, et j'avais un compagnonnage avec les bêtes absolument extraordinaire, avec les vaches en particulier. et avec les chevaux du trait. Et j'en ai conçu, j'en ai ressenti un attachement aux animaux très fort. Donc c'est plutôt ça que la défense des animaux sauvages, c'est les animaux domestiques. Je suis très très attachée aux animaux domestiques.
Mais ça n'était pas une question politique au départ pour vous ?
C'est devenu très vite une question politique. Très vite une question politique, mais je n'ai jamais vraiment milité. J'ai milité, bien sûr, pas à ce que j'ai écrit, mais j'ai jamais milité. J'ai jamais fait partie de défense des animaux qui empêchaient les expérimentations et tout ça. C'est une question politique. Tout est une question politique. Rien n'échappe aux politiques. Mais cette question-là me semble particulièrement, c'est particulièrement important de la rattacher aux politiques, parce que c'est la question de la communauté des vivants. Et la communauté des vivants, c'est une communauté qui n'est pas politique, évidemment. Une communauté émotionnelle, une communauté de vie, mais qui implique des devoirs, des responsabilités qui sont toutes d'ordre politique. Et je suis pour une légalisation des droits des animaux. C'est du juridique, c'est pas du politique.
Mais au départ, quand vous avez travaillé sur les animaux, que vous vous êtes dit que c'était un sujet philosophique, ça l'était peu en philosophie. C'était une question qui n'était pas prise au sérieux, ou en tout cas pas assez
c'est
prise
vrai,
au sérieux.
C'est vrai. J'ai fait un travail de pionnière il y a longtemps, et parce que j'ai relu toute l'histoire de la philosophie avec cette obsession des animaux, et je me suis aperçu que c'était très, très, très grave, l'histoire de la philosophie de ce point de vue-là.
Très grave parce que c'était une absence, une cruelle absence, ou parce qu'il...
Une absence totale, sauf quelques exceptions. Schopenhauer, par exemple. Rousseau, un autre exemple. Mais tous les philosophes ont été très négligents avec les animaux. Ils ont oublié la souffrance animale et la communauté des vivants.
On a parlé de la question d'être vivant comme un fil conducteur de votre œuvre. Il me semble aussi qu'il y a cette question peut-être de ceux qui n'ont pas accès à la parole, qui ne peuvent pas parler, qui vous intéressent.
Oui.
Vous écrivez, alors je ne sais pas, pour ces gens-là, à la place de ces gens-là. Est-ce que vous vous êtes formulé ça ?
Je voudrais qu'on ne les oublie pas. Je voudrais les rapatrier dans la communauté humaine. Parce que j'écris, mais je ne peux pas parler à leur place. Je ne peux pas me mettre à leur place.
Alors comment vous procédez quand vous écrivez pour vous dire j'écris pour eux, mais sans me mettre à leur place, sans prendre leur place? C'est très compliqué dans le travail même de l'écriture.
Bien sûr, c'est un peu paradoxal. Mais vous voyez, il y a quelque chose dans le fait d'être, de se mettre à la place d'eux qui me choque. Je ne voudrais pas être quelqu'un comme ça, qui se prend la place, qui parle au nom d'eux. Je ne veux pas ça. Mais parler pour, ça me semble plus vague et plus profond. Et moins assimilateur, moins usurpateur.
Pourquoi avoir choisi la philosophie plutôt que la littérature ? Ou l'histoire, ou un autre champ, ou je ne sais pas, la peinture, la musique, pour parler pour ceux qui n'ont pas accès à la parole?
J'ai choisi la philosophie parce que je suis philosophe.
Donc vous étiez philosophe avant de faire de la philosophie?
Non, mais j'ai fait des études de philosophie, j'ai enseigné pendant 40 ans. Et c'est comme ça qui est le tout de ma vie. Donc il fallait que je règle un compte là, avec la philosophie. Mais c'est spontanément vers ce domaine-là que je me dirigeais. Alors, c'est vrai que la musique et la peinture sont beaucoup plus favorables aux animaux que la philosophie. Mais c'est la philosophie qui m'intéressait de, non pas de mettre à mal, mais de déconstruire.
Vous dites que la philosophie n'a jamais été une vocation pour vous, que vous l'avez rencontrée par hasard. Et... vous avez eu l'agrégation de philosophie, et je me demande comment on peut avoir l'agrégation de philosophie par hasard.
Écoutez, Ça en dit long sur moi. J'étais pas travailleuse, j'étais une mauvaise étudiante. Je suis un peu une sauteuse. Voilà. Et je me suis jamais prise très au sérieux. C'est pour ça que j'ai pas voulu finalement faire de thèse. J'ai fait une fausse thèse avec Science des bêtes, mais j'ai pas voulu aspirer au doctorat parce que je n'aspirais pas à la reconnaissance de l'université.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans la philosophie?
Tout. La manière de raisonner, la manière d'argumenter, les thèmes, la mise en cause des idées reçues.
Est-ce que quand vous travaillez sur un sujet de philosophie, que ce soit par exemple Marx, au tout début, la question juive, après les animaux évidemment, l'idée vous vient, vous avez parlé pour les animaux, d'une affection particulière pour eux, mais qu'en est-il des autres thèmes? Est-ce qu'il faut forcément travailler sur quelque chose qui nous tient à cœur?
Oui, je réponds oui, pas grand-chose à ajouter, mais je réponds oui. Je travaille sur ce qui me tient à cœur, et ce qui me tient à cœur de défendre ou de rappeler. La question juive, c'est ce qui m'importe de rappeler mon origine juive et ce qui s'est passé. Les deux, mon capitaine.
Mais c'est très difficile parce qu'on présente souvent la philosophie comme une matière qui peut être désincarnée.
Oui. Mais je pense que j'ai contribué à rétablir l'affectif, le passionnel dans l'écriture philosophique. J'essaie d'être, non pas d'être impartial, mais d'être neutre, relativement neutre dans ce que j'écris. Je ne veux pas faire de polémique, mais je suis toujours très engagée dans mes écrits. Au fond, peut-être que je suis un peu une moraliste. J'aime pas beaucoup l'idée que je suis moraliste, mais la morale m'importe beaucoup, finalement. Derrière tout ce que je fais, il y a un souci éthique.
Qu'est-ce que vous cherchez à faire, justement, à travers l'écriture et la philosophie en particulier?
Oui.
Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à convaincre? Vous cherchez à défendre une idée? Vous cherchez à transmettre? À mettre à mal aussi, comme vous l'avez dit, la philosophie?
Tout ce que vous dites, à transmettre et à mettre à mal. Et à transmettre la façon dont je mets à mal, et à convaincre mes lecteurs du bien fondé de ma mise à mal.
Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours comprise?
Oui.
Il n'y a pas de mauvaise interprétation de votre œuvre?
Non, vraiment, jamais. Mais je suis très prudente. Je n'ai jamais été vent debout contre l'humanisme, par exemple. J'ai toujours fait la part des choses. Et sur les questions, sur la question juive, par exemple, j'ai toujours, non pas débattu, mais parlé avec une sincérité et une information qui me vient de naissance. Tel qu'on ne pouvait pas mettre en cause ce que j'écrivais.
Alors justement, comment vous procédez pour écrire? Est-ce que, par exemple, pour votre livre Le silence des bêtes, qui est une somme impressionnante, ou comme vous dites, vous avez tout relu de la philosophie pour voir quelle était la place des animaux faite dans la philosophie, comment vous avez procédé? Vous avez eu, par exemple, un plan en tête?
Je ne m'en souviens pas. C'est si ancien, ça a presque 20 ans. Je me souviens pas comment j'ai fait, mais j'ai travaillé beaucoup plus que pour l'agrégation, je peux vous dire.
Oui, là, vous l'avez pas eu par hasard. Et par exemple, pour vos textes plus récents, comme Gaspard de la Nuit, qui n'a rien à voir avec un travail universitaire, comment vous vous êtes mis à écrire?
Ça s'est déclenché un jour et j'ai fouillé dans ma vie. J'ai fouillé dans ma vie, dans ma relation avec mon frère, dans les souvenirs de mes parents. J'ai tout tiré de moi-même, si j'ose dire.
Comment fait-on pour tout tirer de soi-même?
On réfléchit. On se souvient. On se souvient. Et on s'aperçoit que le fait de se souvenir, cette remémoration, est un travail de l'esprit, un travail de réflexion.
En ce qui concerne la forme de l'écriture, pour les animaux, c'est clair que vous avez fait un travail universitaire en tant que tel. Pour Gaspard de la Nuit, c'est un texte beaucoup plus intime, ça n'est pas la même écriture.
C'est vous qui le dites.
J'espère
que c'est la même, parce que on va dire que c'est pas moi qui ai écrit, que c'est pas moi qui ai écrit ou Le silence des bêtes ou Gaspard de la Nuit. Si c'est pas le même, c'est pas la même écriture. Vous voyez le problème? Moi, j'ai le sentiment que c'est la même écriture. Elle est beaucoup plus contrôlée dans Gaspard de la Nuit, précisément parce que quand on n'a pas de référence, pas de citation, de référence à des auteurs, on peut écrire plus librement. Et on peut faire attention à la manière dont on écrit, plus que dans un livre genre universitaire. Mais à mon avis, c'est la même écriture. Et en tout cas, il y a des chapitres sur des bêtes qui sont tout à fait de la même veine, la même veine que Gaspard de la Nuit.
Par exemple ?
Par exemple, quand je parle de mon frère, dans Le silence des bêtes.
Là, vous aviez l'impression que déjà se trouvait en germe ce que vous alliez écrire 20
oui,
ans plus tard.
Oui. Non, je n'avais pas le sentiment que c'était en germe. Ça aurait été présomptueux, prétentieux, mais c'est absolument évident que ça vient de là. Mais ça vient de là et de l'amour des bêtes. De là et de l'amour des bêtes. Des bêtes domestiques. L'amour des chiens, surtout. L'amour des chiens. Une folie d'amour des chiens.
Vous avez des chiens ?
J'ai eu des chiens toute ma vie. Mais quand on a mon âge, on n'a plus de chiens. Parce que si on meurt, ou si on va à l'hôpital, il faut donner son chien à quelqu'un. Et ça, c'est...
Et ça, vous ne voulez pas ?
Non, mais le confier à quelqu'un, non. Je ne connais personne à qui je pourrais confier un chien, chargé de la charge d'un chien. Donc, c'est plus pensable. Mais j'ai eu des chiens toute ma vie.
Vous écriviez parfois pour un de ces chiens qui vous accompagnait à vos
oui,
côtés.
Oui, non, je n'écrivais pas pour...
Pas pour eux.
Non.
Mais en même temps, vous dites bien que vous écrivez pour ceux qui n'ont pas la parole.
Oui, mais quand je vous disais ça, je pensais aux handicapés, comme on dit. Je ne pensais pas aux animaux.
Alors, quand vous écriviez, vous aviez vos chiens, vous aviez un rituel, je ne sais pas, est-ce que vous étiez entouré, par exemple, pour Le silence des bêtes, en particulier, d'expériences quotidiennes des animaux ?
Non, sauf le chien, évidemment. Mais non, je suis surtout entouré de livres.
Quels sont les livres qui vous entourent ? Hormis ceux de philosophie que vous avez travaillé pour Le silence des bêtes, est-ce qu'il y a des livres qui vous accompagnent, dont vous vous nourrissez encore aujourd'hui ?
Oui, Thomas Mann, La montagne magique, et Proust, La recherche du temps perdu. C'est deux livres qui m'accompagnent continuellement, et qui ne portent pas précisément sur les questions que j'aborde en philosophie.
Est-ce qu'il y a d'autres arts dont vous vous nourrissez pour
la peinture, bien sûr. Je pense à ce chien de Goya. Il y a toute une peinture animalière, j'aime pas beaucoup ce mot, une peinture des animaux qui est très inspirante. Parce que ce que les philosophes ont raté, les peintres l'ont réussi. La poésie aussi. Et la musique.
Qu'est-ce qu'ils découvrent ? Comment ils parviennent à découvrir ce mystère ?
Parce que je crois que les artistes font l'expérience de la présence. Ce que les philosophes ne connaissent pas du tout. La notion de présence, c'est pas une notion philosophique du tout. Et je crois que les artistes sont aussi bien musiciens que peintres, sont sensibles à la présence. Et la présence des animaux, la présence de l'animal, c'est ça le mystère. Un chien qui vous regarde, c'est un vrai mystère. Un chien qui vous regarde et qui ne vous demande rien, c'est un vrai mystère. Alors, je ne dis pas que les peintres ont réussi à capter ça. Mais enfin, voilà, ce que je résume en disant, c'est l'expérience de la présence, et qui est absolument étrangère aux philosophes. C'est une chose qui fait souffrir dans la philosophie.
Vous n'avez pas réussi, vous pensez, à restituer cette présence des animaux ?
Oui, je pensais restituer cette présence, oui.
Vous avez pensé réussir à le faire ? Vous avez dit que les philosophes échouaient à rendre compte de cette présence.
Oui.
Mais vous...
Oui, mais je ne suis pas sûre. Non, je n'ai pas la prétention de rendre compte de la présence animale. Moi, ce que j'ai fait, c'est une déconstruction du discours sur les animaux. C'est très abstrait. Il y a des moments dans le silence des bêtes un peu lyriques, mais je n'ai pas la prétention, la présomption de restituer de la présence, ni de mon frère, ni des bêtes.
Est-ce que d'un livre à l'autre, Elisabeth de Fontenay, vous avez l'impression de creuser un sillon, enfin d'approfondir une même idée? On a parlé d'êtres vivants, on a parlé de ceux qui ne parlaient pas. Est-ce que vous, d'un livre à l'autre, vous vous dites, je vais approfondir quelque chose que j'ai senti à un endroit d'un livre, mais que je n'ai pas approfondi? Ou est-ce que vous avez l'impression, au contraire, que les œuvres entre elles n'ont rien à voir?
Ah non, elles sont toutes mues par la même obsession, être vivant. C'est vraiment le continuum, y compris avec Diderot. Peut-être pas avec les figures juives de Marx, encore que être vivant, c'est une belle question en ce qui concerne la question juive.
Mais justement, vous évoquez Diderot. J'ai lu dans les entretiens que vous avez eus avec Stéphane Bou, qui s'appelle Acte de naissance, vous dites que vous procédez comme Diderot par une pensée décousue,
oui,
obsessionnelle.
Oui.
Et tout à l'heure, juste avant cette discussion, je vous ai dit que nous allions parler de la manière dont vous travaillez.
Oui.
Et vous m'avez dit, je ne sais pas comment je travaille. Oui. Car c'est le désordre autour de moi, j'ai les idées claires, mais c'est le désordre des papiers autour de moi.
Oui. Mais si vous voulez, je m'aperçois qu'il y a une contradiction dans ce que je vous dis, à savoir que je viens de vous dire qu'il y a une certaine unité de ce que j'ai écrit, il y a une obsession permanente, qui est toujours la même. C'est être vivant, ou c'est le vouloir vivre. Et en même temps, j'ai dit, et c'est vrai, que je faisais comme Diderot, j'étais disparate, un peu dispersé, passant d'une à l'autre, passant du coq à l'âne. Et ça se contredit, ça se contrarie. Les deux sont vrais.
En même temps, la vie est...
La vie est disparate.
Est disparate.
Oui, la vie est diverse. Oui.
Qu'est-ce que vous a apporté Diderot ? Parce que c'est un auteur qui est assez peu travaillé finalement en philosophie. Pour le siècle des Lumières, on a plutôt l'habitude de passer.
C'est vrai, mais justement, je suis pas très passionné par le siècle des Lumières.
Ah oui, pourquoi ?
Parce que c'est trop rationaliste. Je mets Rousseau de côté. C'est pas un philosophe des Lumières. Mais je n'aime pas le rationalisme, trop le rationalisme implacable des Lumières. Et Diderot me semble passionnant parce que il échappe complètement à tout ça. Il est très très rationnel, mais très affectif aussi, et il est cousu de fils et de morceaux, voilà, cousu de pièces et de morceaux. Et il coud mal, et j'adore ça.
Vous aimez bien un petit peu les ratés, les lacunes.
Oui.
Et de Diderot aux animaux, est-ce que vous voyez un lien? Parce que là, même si être vivant est le sillon que vous creusez à travers votre œuvre, entre l'un et l'autre...
Non, être vivant, c'est Diderot. C'est le plus vivant des écrivains et des philosophes. Il a été vivant. Mais je ne vois pas de lien absolument entre ce thème de Diderot, la pensée de Diderot, l'écriture de Diderot et les animaux. Il n'en parle pas beaucoup, alors qu'il y a des textes de Voltaire absolument magnifiques sur les animaux. Mais lui n'était pas... C'est pas quelqu'un que ça intéressait.
J'aimerais savoir comment vous faites, Elisabeth de Fontenay. C'est une question un petit peu concrète. Pour, donc, comme je l'ai dit, vous m'avez dit que c'était tout un désordre autour de vous pour malgré tout avoir les idées claires.
Ah, parce que...
C'est un petit peu un mystère pour moi. C'est comme avoir l'agrégation de philo par hasard. Je me demande comment on fait pour travailler dans le désordre.
Mais pourquoi vous me dites que j'ai l'agrégation de philosophie par hasard?
Parce que vous l'avez dit vous-même dans Acte de naissance. Je ne fais que vous citer. Hein.
Je trouve que c'est un peu du toupet de me dire ça comme ça, mais si c'est moi qui l'ai dit.
Je ne me serais jamais permise.
Et c'est comme ça. Voilà, je suis dans le désordre, mais j'ai un très grand ordre. Je m'en aperçois encore aujourd'hui, écrivant sur toute autre chose, parce que j'écris sur la terreur à l'heure actuelle. Je suis dans un grand désordre de livres et de papier. Je n'ai plus de papier, du reste, je ne fais plus de papier. Avec l'ordinateur, on n'a plus de notes. Et je suis dans un grand désordre de lecture, mais je sais très bien ce que je veux dire et je l'étoffe. Je l'argumente grâce à mes lectures, mais je sais où je vais. Je crois que je sais où je vais. Je ne suis pas errante.
Allez-y.
Oui, on avait une discussion avant de nous retrouver ici.
Vous m'avez dit que
masterclass.
Voilà, parce que le titre de ces rencontres s'appelle masterclass. Oui.
Je ne sens pas master pour un sou. J'étais professeur, certes, mais maître, absolument pas.
Vous vous sentez plus errante.
Je me sens plus errante que ça. Et on a eu cette discussion. Mais est-ce qu'il y a des maîtres en errance? Je ne crois pas. Il y a des modèles, peut-être. Mais c'est pas bon de suivre des modèles d'errance. Il faut avoir sa propre errance.
Je ne suis pas sûre que l'errance et la maîtrise soient vraiment opposées. Parce qu'on peut, par exemple, vous dites très bien que vous savez parfaitement où vous allez.
Oui.
Donc vous êtes dans la totale maîtrise et pourtant autour de vous, vous errez parmi des références et vous piochez. Vous avez l'air de vous,
c'est vrai,
de vous nourrir de différentes rencontres.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
J'aimerais savoir comment on fait pour savoir où on va précisément quand on écrit un livre de philosophie ou quand on écrit un texte plus intime. Comment on fait pour savoir là où on va arriver? Parce que parfois, on est justement surpris par les rencontres ou par l'errance qu'on a. Est-ce que vous avez été parfois, vous vous êtes dit, je veux arriver à ce point-là, je veux démontrer par exemple...
Non, parce que je ne sais jamais où je veux aller quand je commence. Mais il y a quelque chose en moi qui sait où je veux aller.
Alors comment vous...
Ça n'est pas conscient, ça n'est pas articulé. C'est une volonté d'aller dans une certaine direction et de creuser dans cette direction, mais je ne sais pas le point de mon arrivée. Enfin, sauf si, évidemment, je défends une thèse. Dans la science des Belges, j'ai défendu une thèse. La thèse de l'indignité de la philosophie par rapport aux animaux. Mais... Non, je ne...
Vous pouvez être surprise.
C'est ça justement, je réfléchissais à ça, je ne suis pas tellement surprise. J'étais surprise, disons que j'exploite les surprises de ma jeunesse. J'ai eu beaucoup de surprises. Étant jeune, et j'ai réfléchi à ces surprises dans mon âge mûr et dans ma vieillesse. Mais je ne peux pas vous dire que je fasse des rencontres à l'heure actuelle, ou même il y a 10 ans, ou même il y a 20 ans, je ne faisais pas de rencontres. Je savais où j'allais, je savais par quel chemin j'allais passer. Je suis très philosophe de ce point de vue-là.
Vous voulez dire très sage ?
Non, mais très, très organisée.
Pas si errante que ça.
Malgré mon désordre.
Et quand vous dites que vous avez été très surprise étant jeune, mais plus maintenant et plus il y a 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous nourrissez encore des surprises que vous avez eues étant jeune?
Oui, oui.
Donc par exemple, le silence par rapport aux animaux, oui. le peu de place fait aux personnes handicapées.
Vous savez, ce qui est essentiel dans mon travail pour moi, c'est ce que j'écris sur la question juive, comme on dit la question juive. Et ça, c'est une terrible surprise de mes 18 ans, d'apprendre que ma famille avait été déportée à Auschwitz et que tout le monde était mort, mes cousins germains, mon oncle et ma tante et ma grand-mère. Et c'est le mot de surprise n'est pas très, très, très adéquat, mais
une émotion,
la découverte de quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, qui a fait ma vie, qui a constitué ma vie. Et beaucoup de choses viennent de là. Mon intérêt pour les animaux aussi, parce que ce sont des victimes. Je ne vais pas faire de comparaison entre les... De même que je ne vais pas faire de comparaison entre mon frère et un animal, je ne vais pas faire de comparaison entre les juifs et les animaux, bien sûr. Mais tout cela, ça vient d'événements de mon enfance ou de ma adolescence dont je suis parmise. Et j'essaie de me remettre en écrivant. J'essaie de me remettre de la cruauté de l'agroalimentaire vis-à-vis des bêtes. Je ne suis pas végétarienne, parenthèse. Mais j'essaie de me remettre de cette cruauté envers les bêtes en écrivant. L'écriture est une consolation.
Et une forme de réparation ou de...
De réparation.
Est-ce que
de rédemption.
Est-ce que vous pensez que écrire, c'est pardonner ou...
Non. Ah non. Ah non.
Ah non. Vous êtes comme Jean Kalevitch.
Ah oui, mais... Je ne pardonne ni pour les juifs, ni pour les bêtes. Ah non.
Entendu.
Non, parce que je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, parce qu'il y a une pièce qui se joue à partir, je ne sais pas si vous connaissez Simon Wiesenthal, qui a écrit sur la déportation, et qui raconte l'histoire de la SS qui est en train de mourir, horriblement blessée à côté de lui, qui lui-même est extrêmement fatigué, malade, et sort d'un camp de concentration, sort d'un camp d'extermination, et le SS lui demande son pardon, et il le lui refuse. C'est un texte admirable, ça s'appelle « Fleur de soleil ». Et je suis complètement de ce côté-là, du côté du refus du pardon.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a des crimes inexpiables, alors je ne mets pas sur le même plan la Shoah et l'agroalimentaire, puisqu'aussi bien je ne suis pas végétarienne, je le répète, mais je n'aime pas l'idée de pardonner. Par contre, en revanche, comme il faut dire, je suis très très intéressée par le pardon pendant les guerres de Vendée, pendant la Terreur. Un général vendéen blessé, mourant, a fait grâce à 1000 prisonniers républicains alors qu'on devait les exterminer. Donc je suis extrêmement intéressé par le pardon ou par la grâce accordée entre combattants. Mais en ce qui concerne les juifs, il n'y avait pas de combattants. C'était juste des brebis qu'on emmenait à l'abattoir. Et les animaux, ce sont des brebis qu'on amène à l'abattoir aussi. Et il n'y a pas lieu de pardonner. Il faut changer. Il faut changer. La question, c'est pourquoi est-ce que je ne suis pas végétarienne, par paresse. Parce que c'est très difficile de refuser. Ça me semble très difficile de refuser de manger quelque chose quand on est invité. D'emmerder tout le monde avec ça.
Mais je trouve que c'est une question assez redoutable de... et que je me pose régulièrement, qui est pourquoi en sachant que manger des animaux peut être moralement condamnable, malgré cette connaissance éthique, ce savoir, pourquoi quelque chose ne se produit pas au niveau des actes. Et c'est là où je me demande aussi quelle est la force parfois des écrits de philosophie, d'écriture philosophique ou de textes même, pour nous toucher et nous faire prendre conscience, mais même plus que prendre conscience, pour nous pousser à faire quelque chose.
Oui, mais moi, je suis un très mauvais exemple de ça, parce que je ne passe pas à l'acte de ne plus manger d'animaux. Et j'aime pas la viande, je me nourris pas de viande, j'ai une volonté de me conduire correctement en société ou de vivre simplement. Et voilà, il y a un effort à faire que j'aurais fait peut-être il y a 20 ans, non, que je ferais si j'avais 20 ans ou si j'avais 40 ans, mais que je n'ai plus la force de faire. Et la décision n'est pas venue et je manque de radicalité là. Je sens que je suis consciente que je manque de radicalité et j'en ai honte. En revanche, je n'ai pas honte du tout de mon refus du spécisme et de tout cet animalisme américain.
Du type Peter Singer.
Complètement dogmatique. Ça, je le récuse sans aucune honte. Mais le fait de ne pas être végétarienne, c'est un problème pour moi.
Vous avez dit, Elisabeth de Fontenay, que vous essayez de vous remettre de la découverte à 18 ans que votre famille avait été déportée et morte pendant la Shoah.
Exterminée, comme on dit.
Exterminée. Et est-ce que vous avez l'impression, au fur et à mesure des années, de l'écriture, du fait que vous travaillez là-dessus, est-ce que vous avez l'impression de réussir à vous en remettre ?
Non. Plus je réfléchis, plus je travaille, plus ça me bouleverse, ça me fait mal. Ça m'empêche presque de vivre. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut passer à la politique. Est-ce que être obsédé par le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça veut dire qu'on est pro-israélien ? Et si on est pro-israélien, qu'est-ce que ça veut dire d'être pro-israélien ? Ça veut dire qu'on est contre la création d'un État palestinien à côté de l'État israélien ? Moi, je suis pour. Je suis indigné par la rencontre, par la proclamation commune de Netanyahou et de Trump, qui disent qu'ils vont... l'accord américain, au fait de recouvrer les terres de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain. Je trouve ça abominable et que ça a eu lieu au moment où il y avait des commémorations de la Shoah à Jérusalem. Ça me scandalise. Mais je suis pro-israélienne. Mais pro-israélienne, deux États. Voilà. Donc c'est des questions qui ne cessent de me tourmenter terriblement. Et c'est des questions politiques.
Et vous n'arrivez pas à trouver, à trancher, à avoir une position ?
Ben, écoutez, comment faire ? Je suis pro-israélienne, mais par ailleurs, si, il y a des gens très bien en Israël, il faudrait qu'ils aient le pouvoir et que Netanyahou s'en aille.
Non, mais quand je dis que vous n'arrivez pas à trancher ces questions-là, c'est que c'est des questions qui vous tourmentent. C'est comme le rapport aux animaux, mais de continuer à manger de la viande. Ouais. C'est-à-dire que l'écriture ne vous apporte pas forcément une décision ferme.
Voilà. Non, sur la question juive, si, elle est très ferme. Elle est très ferme de me présenter comme d'origine juive pour moitié. Ce qui ne m'empêche pas de revendiquer aussi mon origine normande. Mais je suis très ferme sur la question juive. Sur la question des animaux, je suis dans un état de honte, de demi-honte, parce que je ne fais pas s'il faudrait. Parce que la seule façon de... C'est très difficile de renoncer à la culture de sa société. L'habitude de manger de la viande est immémoriale.
Mais c'est de plus en plus important d'en manger moins ou pas ?
Oui. En manger moins, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est ça, en manger moins. J'en mange moins. Mais Ça ne me console pas. Ça ne me déculpabilise pas.
Tout à l'heure, vous m'aviez dit que quand vous finissiez un texte, vous n'aviez pas du tout envie d'y retoucher. Est-ce que ça veut dire pour vous que... par exemple, vous ne repensez jamais à ce que vous avez écrit ?
Oui, si, j'y repense, je le relis, mais je suis d'accord.
C'est vrai.
Je réfléchis avant d'écrire. Je réfléchis avant de parler, moi, je ne réfléchis pas vraiment avant de parler. Je dis beaucoup de bêtises, mais quand j'écris, je réfléchis. Et je n'ai pas envie de revenir sur ce que j'ai écrit. Jamais. Ah, peut-être que j'étais un peu althusserienne dans le pour Marx.
Et c'était pas bien ?
J'étais trop dans les catégories althusériennes, trop. C'était le grand homme de mon époque. Et j'étais marxiste. Mais je pense que j'étais un petit peu trop loin. Parce que le texte de Marx est quand même problématique. Et j'ai essayé de montrer que c'était pas si grave que ça. Voilà.
Donc il y a quand même des choses que vous pourriez retravailler sur Marx pour dire justement je me suis trompée ou je suis allée trop loin.
Je ne peux pas dire je me suis trompée. Non, je ne peux pas dire je me suis trompée, mais dire j'ai été trop loin, j'étais trop.
Trop jeune.
Trop intéressée par les questions de méthode, plus que par les questions de contenu.
Alors que maintenant la méthode vous l'avez un petit peu.
Ouais, la théorie je l'ai un peu mise. Au placard.
Alors qu'est-ce qui reste quand on est philosophe et qu'on met la théorie au placard ?
Est-ce que la philosophie c'est de la théorie ? J'en suis pas sûre. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas sûr que ce soit de la théorie.
Bah déjà, j'aime pas trop le terme théorie.
Ouais. La théoria grecque, c'est la contemplation. Alors en ce sens-là, j'aime bien, mais...
Mais ce qu'on en a fait aujourd'hui, c'est plutôt la théorie, c'est quelque chose d'abstrait,
voilà,
quelque chose
voilà,
un petit peu coupé
voilà,
du monde.
Exactement, exactement. Et je m'éloigne beaucoup de la théorie, et je méfie du théorisme.
Est-ce que vous pourriez réécrire sur Marx, ou sur Diderot, ou sur les animaux, ou ça c'est des sujets que vous estimez clos ?
Clos, moi j'ai plus rien à dire sur ces sujets-là. J'étais aussi loin que je pouvais aller, peut-être pas très loin, mais aussi loin que je pouvais aller. Et Diderot, je pourrais encore écrire, je crois, parce que je l'aime tellement, je l'adore tellement que...
Est-ce que c'est important pour vous, un auteur qui est, de lire des auteurs drôles ? Parce que Diderot, c'est très réjouissant à lire.
Oui, oui. C'est sûr que ça m'a fait du bien, ça m'a ravi, ça m'a diverti. C'est-à-dire détourné de mon cheminement. Mais ça a été mon cheminement aussi. Vous savez, j'ai fait du théâtre avec Diderot. J'ai fait une pièce de théâtre qui était jouée par Jean-Louis Barrault. Chez Jean-Louis Barrault. C'était une expérience merveilleuse. De divertissement, d'incarnation, de somatisation même, des idées.
C'est-à-dire de somatisation des...
Les acteurs, ils sont des corps. Ce sont des corps qui incarnent.
Oui, quand vous dites somatisation, c'est vraiment passer par le corps, d'incarnation, oui, puisque somatisation
a un côté... C'est une sorte d'hystérie. Hein. Le théâtre est une sorte d'hystérie que j'aime bien.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé du théâtre jusqu'ici. On a parlé de la peinture.
Oui.
On a parlé de la poésie, de la littérature, mais le théâtre...
Moi, je m'intéresse surtout à mes adaptations théâtrales. Je n'ai jamais fait de pièce de théâtre, bien sûr, mais j'ai fait des adaptations théâtrales. J'ai fait l'adaptation de Michelet au moment de 89, l'anniversaire de 89, et j'ai beaucoup aimé ce que j'appelle la somatisation, c'est-à-dire une sorte d'hystérisation des idées par des personnages et par les acteurs. Ça m'a beaucoup plu, ça.
C'est intéressant cette question du corps aussi. Elle vous a intéressé à un moment donné, parce que précisément le corps, on pourrait avoir l'impression que ce soit pour les handicapés ou les animaux, les figures sur lesquelles vous avez travaillé, que l'expression passe par le corps, mais pas par la parole.
Oui, oui. 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 Alors, il y a des animaux qui communiquent par une sorte de langage, les chimpanzés en particulier. Mais c'est peut-être pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'expressivité corporelle en tant qu'elle est signifiante. Et ça, ce n'est pas les philosophes qui peuvent comprendre ça, expliquer ça. Mais les peintres peuvent le faire.
Et les acteurs de théâtre ?
Et les acteurs de théâtre. Et la musique. Parce que la musique, c'est très sensuel, c'est très physique.
Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ou qu'est-ce que vous écoutiez comme musique ?
Beaucoup Gustav Mahler, qui est un grand ami des animaux, mais d'autres aussi.
Comment vivez-vous la réception critique de votre travail? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez une confiance totale dans votre lecteur, que vous aviez toujours l'impression d'être comprise.
Oui, enfin, la réception, on est par la réception des articles de journaux, les critiques de journaux sont toujours tellement gentilles que je me dis que bon, c'est une brave fille, on va lui faire une fleur, on va faire un bon article sur ce qu'elle a fait.
À vous.
Elle est sympathique, elle est courageuse. Toujours un peu l'impression de ça, qu'on me flatte et on me méprise un peu, voilà.
C'est vrai?
Oui. Oui.
Ah oui, donc c'est des critiques.
Sauf sur Caspar de la Nuit, j'ai eu des articles, j'ai eu des textes écrits par des psychanalystes absolument remarquables qui m'ont vraiment honoré beaucoup. Mais sinon, j'ai toujours l'impression qu'on me flatte un peu.
Mais peut-être que les gens disent que c'est bien parce qu'ils sont un petit peu impressionnés et qu'ils ne trouvent pas les mots.
Oui, peut-être. Impressionné est un mot qui ne me plaît pas beaucoup. J'aime pas beaucoup d'impressionner. J'aime pas les dominants. Alors, il faut être un dominant pour impressionner. Et j'aime pas beaucoup cette façon de voir les choses, mais ils sont sensibles. Ils sont sensibles. Et puis, il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi sur les animaux, parce qu'ils étaient militants eux-mêmes. Ils avaient eux-mêmes commencé le travail.
Quelle image vous faites-vous de votre public, justement? Est-ce que vous pensez que c'est un public, par exemple, pour les animaux qui étaient militants?
Ah oui. Ah oui, parce que les gens qui ne sont pas militants ne comprennent rien. Il y a une très grande indifférence à la question animale, très grande indifférence.
Vous ne pensez pas que ça a changé,
peut-être un peu changé.
Et peut-être justement grâce à votre livre et puis oui, l'émission de radio que vous avez animée.
Oui,
sans doute. Sur France Inter.
Enfin, ça change très très lentement. C'est comme l'écologie en général, ça change, mais très 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 lentement.
Est-ce que vous pensez que les œuvres que vous laissez vont laisser une trace et vont faire une œuvre de pédagogie? Vont pouvoir faire changer, contribuer à ce changement?
Oui, j'espère. Mais j'en attends pas trop non plus, vous savez. Je suis très modeste. Très modeste.
Vous voulez pas être impressionnante?
Non, je suis très, très narcissique. Au sens où la subjectivité compte beaucoup pour moi. Et parler de ma subjectivité compte beaucoup pour moi. Mais je suis très modeste quant à la portée générale de mon œuvre.
Est-ce que vous aimeriez, tout en étant modeste, je ne sais pas si c'est compatible, malgré tout laisser une trace? Est-ce que vous pensez parfois, quand vous écrivez un texte, vous dire « ça, je suis heureuse de l'avoir laissé, de l'avoir écrit, de l'avoir produit ».
Mais je laisse des traces, déjà. Je vais recevoir chez moi, dans quelques jours, une jeune femme qui fait une thèse sur Diderot. Une normalienne qui fait une thèse sur Diderot et qui me dit qu'elle adore mon livre sur Diderot. Donc c'est une trace. Je suis très sensible aux traces que je laisse. Après ma mort, je m'en fiche un peu. Je n'ai rien à fiche de la postérité. Rien.
Ce qui vous intéresse alors, ce n'est pas la postérité, c'est la transmission.
Voilà, exactement. Je suis prof jusqu'au bout des ongles.
Pourquoi vous préférez d'ailleurs le terme de professeur de philosophie plutôt que philosophe? Justement parce que philosophe, c'est un peu pompeux, un peu impressionnant?
Bah oui, c'est, parce que je suis profondément prof. C'est ça qui a fait ma vie, être prof. De philosophie, bien sûr, mais prof de philosophie. Voilà.
Qu'est-ce que vous a apporté l'enseignement de la philosophie?
De trouver moi-même ce que je pensais. Ce à quoi je voulais me référer, ce qui comptait pour moi. Ça a beaucoup compté. Et j'ai essayé, en essayant de transmettre, je m'apercevais à quel point j'étais attaché à certains auteurs, à certaines idées. Comme j'étais partagé sur quelqu'un comme Descartes, à la fois que j'adorais, que j'adore, et qu'en même temps... à mécaniser les animaux, à faire des animaux des machines, et leur a refusé la sensibilité. Donc l'enseignement m'a permis de réfléchir à ce genre de questions, à ce genre d'auteur, à me faire une opinion, ce qui n'était pas une opinion.
Est-ce qu'il y a des auteurs que vous aimiez beaucoup et au fur et à mesure où vous les enseignez, ils vous ont énervé ou vous les avez détestés?
Descartes, oui, c'est un bon exemple. C'est un peu le cas de tous les auteurs. On finit par être agacé parce qu'on en traverse beaucoup quand on enseigne. Et on en traverse. Est-ce qu'on les traverse? Oui, on les traverse. C'est ça. On passe à travers pour en glaner quelques éléments. Mais sauf, évidemment, quand on enseigne à un très haut niveau à l'université sur un auteur ou sur une question. C'est pour ça que j'aime l'idée de prof de philo. C'est que j'aime bien l'idée que j'étais prof au lycée. Je suis très attachée à mon enseignement au lycée. J'ai enseigné 5 ans au lycée avant d'être à Sorbonne, à Paris 1. Et on traverse les auteurs. Mais j'aime bien cette traversée.
On parle durant cette masterclass, il nous reste quelques minutes, Elisabeth de Fontenay, de comment s'est fabriquée votre œuvre. Et effectivement, les années d'enseignement ont été déterminantes pour vous.
Déterminantes. Et alors, il faut ajouter que à Paris 1, j'ai fait un séminaire de maîtrise sur les animaux pendant 2 ans, pendant 3 ans, et que j'ai nourri ma bibliographie et j'ai nourri ma réflexion à ce moment-là en enseignant.
Est-ce que vous avez aussi testé, si je puis dire, sur les élèves,
oui,
la manière dont était reçue à la fois, oui, cette question des animaux, oui, mais aussi des auteurs qui parlaient des animaux?
Oui, oui. Quelquefois avec un peu de scepticisme, et quelquefois des sourires, mais gentiment. Mais oui, et puis les élèves qui suivaient ce séminaire étaient très intéressés par la question. Avant moi, avant que j'en parle, ils venaient à ce séminaire parce que la question les intéressait. Du reste, la question a été mise au concours d'agrégation et au concours de l'école normale assez vite après. Mais ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que c'est une question qui s'est imposée.
Qui est importante.
Oui.
Quand vous avez enseigné au lycée ou même à la fac, est-ce que vous avez eu l'impression de susciter des vocations, de provoquer un amour de la philosophie?
Je déteste le mot de vocation.
Ah, génial. Pourquoi?
Je le déteste.
Pourquoi?
Parce qu'il est religieux. Une vocation, c'est une vocation religieuse. Et il n'y a pas de vocation philosophique, ça n'existe pas.
Ah, vous détestez quand on associe...
On n'est pas appelé. L'idée de vocation, c'est qu'on est appelé. Non, ça m'est absolument insupportable.
Donc, ce n'est pas le terme de vocation, c'est le terme de vocation avec celui de philosophie qui vous semble incompatible.
Voilà. Alors, est-ce que j'ai suscité
des
orientations philosophiques? Oui, sans doute. Mais une, certainement. J'en suis, parce qu'elle me l'a dit. Mais elle s'appelle Catherine Chalier. Ça vous dit quelque chose?
Oui, ça me dit quelque chose. Qui a travaillé notamment
sur Lévinas.
Et avec Lévinas en partie.
Ouais, absolument. Et elle est remarquable.
Elle a fait un très beau texte sur les larmes.
Oui, elle est remarquable. Je ne suis pas d'accord avec elle du tout, mais elle est profondément spiritualiste. Elle est profondément... Et moi, je suis profondément matérialiste.
Donc peut-être que pour elle, vous avez provoqué une vraie vocation.
Oui, mais...
Philosophique.
Voilà.
Est-ce que on est déjà venu vous voir après avoir lu vos textes pour dire... Alors, vous n'avez pas provoqué une vocation, mais là, vous m'avez ouvert les yeux. Là, j'ai compris quelque chose.
Oui. C'est arrivé.
Vous avez été remercié aussi pour avoir pris la parole pour ceux qui ne pouvaient pas?
J'en suis pas sûre.
Pour Gaspard de la Nuit, vous avez eu un prix,
oui.
Le prix Fémina.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a fait?
Oh. J'ai l'impression de m'être paré des plumes du paon, si j'ose dire.
Vous n'aimez pas ça?
Non, j'aime pas ça, mais ça m'a mis dans une culpabilité profonde.
Pourquoi?
Parce qu'il est là, il continue à exister, à vivre, un peu loin de moi. Et moi, je fais mon succès sur lui. C'est très désagréable. J'ai l'impression que j'ai fait un acte de reconnaissance en écrivant sur lui, mais en même temps, je me dis que je me suis flatté narcissiquement. Et ça a été récompensé par un prix, très content d'avoir un prix, mais...
On a commencé, Elisabeth de Fontenay, avec cette idée d'écrire pour ou écrire à la place. Vous avez dit que c'était une question très compliquée.
Oui, c'est très compliqué.
On en revient à celle-ci, finalement.
Je n'écris pas à la place d'eux. Parce que c'est une prétention inouïe de se mettre à la place de qui que ce soit. En particulier des Juifs morts à Auschwitz. On va se mettre à la place de quelqu'un qui... Si, bien sûr, je mets à la place des gens qui ont été à la chambre à gaz. Je me représente, j'imagine. Mais ça ne peut pas être quelque chose de l'ordre de l'écriture. C'est une espèce de fantasme. Donc l'écriture ne passe pas par ces choses scabreuses. L'écriture, c'est... On écrit pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie pas les bêtes. Et pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Elisabeth de Fontenay. Et merci à vous tous et à vous toutes.
C'était la masterclass d'Elisabeth de Fontenay avec Géraldine Mosna-Savoie. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Pascaline Bonnet, prise de son Benjamin Perru, Yvan Turc, coordination technique Francesca Fossati, réalisation Clotilde Pivin.